L'homélie de ce week-end vous est présentée par le père Raphaël Buy, prêtre du diocèse de Rodez.
De l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, quelques sadducéens, ceux qui soutiennent qu'il n'y a pas de résurrection, s'approchèrent de Jésus et l'interrogèrent. « Maître, Moïse nous a prescrit. Si un homme a un frère qui meurt en laissant une épouse mais pas d'enfant, il doit épouser la veuve pour susciter une descendance à son frère. Or, il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans enfant. De même le deuxième. Puis le troisième épousèrent la veuve, et ainsi tous les 7. Ils moururent sans laisser d'enfants. Finalement, la femme mourut aussi. Eh bien, à la résurrection, cette femme-là, duquel d'entre eux sera-t-elle l'épouse, puisque les 7 l'ont eue pour épouse ? Jésus leur répondit : Les enfants de ce monde prennent femme et mari, mais ceux qui ont été jugés dignes d'avoir part au monde à venir et à la résurrection d'entre les morts, ne prennent ni femme ni mari, car ils ne peuvent plus mourir. Ils sont semblables aux anges. Ils sont enfants de Dieu et enfants de la résurrection. Que les morts ressuscitent, Moïse lui-même le fait comprendre dans le récit du buisson ardent, quand il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Tous, en effet, vivent pour lui. » Les Sadducéens constituaient un mouvement lié aux prêtres du temple qui rejetaient les règles et les croyances religieuses si elles ne figuraient pas explicitement dans les 5 premiers livres de la Bible, dans ce cœur de la Bible juive qu'est la Torah. En évoquant le cas d'une femme et de 7 frères qui l'épousent l'un après l'autre mais meurent sans laisser d'enfants, 2 questions liées sont en jeu dans la controverse qu'ils engagent avec Jésus, celle de la résurrection et celle du mariage. Est-ce que la résurrection fait vraiment partie de la foi juive? Quelles sont les fins du mariage? Pourquoi se marie-t-on? La résurrection des morts n'apparaît de fait que tardivement dans la pensée juive, au moment de la révolte juive contre les persécutions des rois hellénistiques du IIe siècle avant Jésus-Christ, ce que relatent les livres des Maccabées. Pour montrer alors que la résurrection est bien présente dans la Torah, Jésus rappelle l'épisode de Moïse au buisson ardent, ce moment essentiel de l'Exode, le 2e livre de la Torah, où Dieu révèle son nom, un nom foncièrement relationnel. « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. » En hébreu, l'expression « Dieu » de se dit « Elohei », qui est une altération du mot « Dieu » « Elohim », comme si le fait que Dieu soit le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob affectait Dieu, dans ce paradoxe où l'éternel, l'immuable, celui qui est ce qu'il est, se laisse affecter par la relation qu'il noue avec ceux qu'il aime, avec ceux qu'il a élus, et à qui il donne en retour de vivre pour lui, pour avoir ce pouvoir sur lui. La résurrection des morts est bien alors au cœur de la révélation biblique. Sur le mariage, les Sadducéens font référence à la règle du Lévirat, présente dans le 5e livre de la Torah, le Deutéronome, où le frère d'un défunt doit épouser la veuve de son frère afin de poursuivre la lignée de son frère, comme si la fin première du mariage était de donner à un homme une descendance. On en trouve trace encore dans l'ancien code de droit canonique qui voyait en la procréation la fin première du mariage. En réalité, en méditant sur le mariage véritable qu'a constitué l'union non consommée entre Marie et Joseph, la tradition de l'Église de saint Augustin à saint Thomas d'Aquin affirme que l'unio animorum, l'union des âmes, constitue l'essence du mariage sacramentel. La fin propre du mariage est l'amour des époux et l'union indissoluble de leur esprit et de leur cœur, et non la procréation ou le remède à la concupiscence. Ce qu'a médité Carole Wojtyla, le futur saint Jean-Paul II, et que le Concile Vatican II et le nouveau code de droit canonique ont consacré. Cette union des âmes ici-bas prépare et préfigure la communion parfaite promise par le Père en son Fils, dans l'Esprit. Celle-ci ne peut s'accomplir qu'au-delà de la mort, dans une communion qui dépasse l'exclusivisme de la relation conjugale, pour s'étendre à tout et à tous, dans une plénitude de vie où l'amour divin ne trouve plus d'obstacle en nous, où l'on peut aimer comme Dieu, c'est-à-dire d'un amour préférentiel pour tous. Amen.